On va jaser avec quelqu'un qui a rencontré Sylvain Lévesque et qui en est ressorti indemne. Olivier Teasdale, comment ça va?
Ça va bien, toi-même?
Très bien. Olivier, qui est le fils de Jacques Teasdale, rappelons-le, mort, presque torturé dans un hôpital avec de mauvais soins, négligé au possible. Et il y a des poursuites judiciaires en la matière, puis il y a eu des plaintes également au niveau disciplinaire. Racontez-moi donc les dernières heures, comment ça s'est passé, là, la rencontre avec le député de Chauveau?
Ben écoute, d'abord, j'ai été surpris d'apprendre que la directrice de bureau de M. Lévesque m'a confirmé qu'elle apprenait le matin où on m'a invité à aller le rencontrer, qu'on demandait une rencontre avec Sylvain Lévesque, alors que ça faisait plus d'un an qu'on demandait la rencontre. Donc, je ne sais pas à quelle place on regardait.
Déjà proche du monde!
Mais tu sais, on l'a accepté parce qu'on le demande. Hein. Ça fait longtemps qu'on demande une rencontre au niveau politique et c'est la première rencontre, j'espère, de plusieurs rencontres qu'on aura à avoir avec le niveau politique dans le dossier de mon père. Donc, on a accepté la rencontre. Puis, je dirais qu'on a été surpris dans cette rencontre-là d'apprendre certaines choses qui sont quand même assez flagrantes là, au niveau politique dans le milieu de la santé.
Oui, mais raconte ce que tu as appris. Ben, est-ce que parler, entre autres, du fait que Dubé s'intéresse à ça? Peut-être que ça serait bon d'avoir un peu de charité et un peu de cœur de la part de Dubé, là, qui fait juste s'occuper du salaire des spécialistes ces temps-ci. Là.
Vous savez, ça fait déjà plus d'un an là, qu'on demande à M. Dubé de le rencontrer. Ce qu'on nous aurait expliqué hier, c'est qu'il faudrait produire un nouveau document pour le ministre Dubé. Document avec lequel on va regarder des articles de loi puis ce qu'on pourrait suggérer comme changement au niveau de la loi. Je pense que c'est un autre document qu'il faut ajouter par-dessus pour gagner du temps. On comprend que M. Dubé revient pas à la prochaine élection. Ouais, on comprend que ça peut prendre un délai de 6 à 8 mois pour le rencontrer en faisant un document comme ça, qui nous amène à peu près en principe en plein milieu du début d'une campagne électorale en 2026.
Mais quelle réponse, mon cher Olivier, tu recherchais chez Sylvain Lévesque, qui est somme toute, sans offense, une plante verte?
En fait, ce qu'on voulait surtout, nous, c'est qu'il devienne une courroie de transmission pour nous, entre nous et le ministre, afin de faciliter une rencontre, et ne pas augmenter le fardeau pour rencontrer M. Dubé. Je pense que c'est simple, c'est un des collègues à M. Dubé, Sylvain Lévesque, donc je pense que c'est simple de prendre un téléphone, d'appeler M. Dubé.
Pas sûr que Christian Dubé, c'est qui, Pam?
Ah, Dubé, il sait pas.
Là, je ne pourrais pas vous dire, mais je pense que ça serait simple pour un député du comté de dire au ministre, écoutez, on a un citoyen qui veut vous rencontrer. Je pense que ça serait la moindre des choses qu'on fasse, cette rencontre-là, surtout la gravité du dossier. On ne demande pas pour rencontrer, pour parler des ballons de plage ou rencontrer pour parler de n'importe quoi. On veut parler d'un dossier qui est quand même très important. Je pense que le député devrait être la courroie de transmission puis utiliser son pouvoir de député pour nous...
Qu'est-ce que tu as appris, Olivier?
Bien, la première chose qui est assez flagrante qu'on apprend, c'est qu'il y a un projet de loi qui a été fait à l'époque, qui porte le numéro 101, donc pas le projet de loi pour la langue, mais bel et bien pour la maltraitance. On apprend dans cette loi-là qu'il y a des amendes prévues pour les gens qui commettent de la maltraitance sur des patients, que ce soit en hôpital, en CHSLD ou RPA, peu importe. Et des amendes qui sont quand même très sévères prévues à la loi. Là, on parle de 5 000 à 125 000 dans un premier cas, puis de 10 000 à 250 000 dans des cas de récidive.
Rappelons que ton père a été maltraité.
Absolument.
Tu connais les personnes qui l'ont torturé.
Exactement. On sait c'est qui, on sait, on a les photos qui le démontrent, on a les preuves, on a un dossier qui est quand même très solide et très complet qui démontre la maltraitance. Mais malheureusement, ce qu'on apprend, c'est qu'il n'y a pas personne pour appliquer ces lois-là. C'est au même titre qu'on vous dirait demain matin, il y a des gens qui conduisent en état d'ébriété, il y a une loi, mais on peut pas l'appliquer même s'ils se font arrêter. Hein? Donc, dans le fond, c'est qu'on a une loi qui, malheureusement, n'a aucun moteur de travail pour dire on va appliquer cette loi-là. C'est assez flagrant d'apprendre ça parce qu'à ce moment-là, ça vous donne quoi de créer une loi si on peut même pas l'appliquer?
Également, les infirmières qui dénoncent devraient pas être suspendues.
Ça, vous avez vu que j'étais un petit peu tombé en bas de ma chaise quand j'étais là parce que ça m'amenait une réflexion. On dit dans la même loi, j'ai lu l'article, on m'a présenté l'article, effectivement, les infirmières ne devraient pas être suspendues. Même, on devrait suspendre ceux qui font l'intimidation et de l'harcèlement aux infirmières en les menaçant de les suspendre.
Alors que dans le cas de ton père, il y a eu du monde de suspendu.
Absolument, absolument. Il y a eu du monde de suspendu. On parle d'une infirmière, justement, Stéphanie Robert, qui a été suspendue, on a publicisé son dossier, qui a été suspendue parce qu'elle a osé dénoncer, alors que la loi dit tout à fait le contraire. Alors, la question que je me suis posée hier, c'est où était M. Lévesque? Parce qu'on ne peut pas croire que M. Lévesque n'a pas connu l'histoire d'infirmière suspendue. Ça a été publié à plus de 150 000 vues. On l'a vu partout, à peu près, sur les réseaux sociaux. Même dans les médias, on en a parlé. On a une infirmière qui a été suspendue parce qu'elle a osé dénoncer le manque de suivi que mon père a eu, qui l'a amené vers la mort, pour se le rappeler, puis aussi la maltraitance. Elle a constaté la maltraitance à sa chambre, là, qui était hospitalisée à l'hôpital de l'Enfant Jésus. Malheureusement, il n'y a pas personne dans ce niveau politique-là qui s'est levé et qui a dit « Oh, attendez, on a une loi qui empêche ça de faire ce que vous faites actuellement. » Il y a des amendes qui sont aussi prévues à ceux qui font ça de 2 000 à 250 000 $ dans cette loi-là pour empêcher que les infirmières ou les infirmiers ou les préposés ou les gens qui veulent dénoncer soient suspendus. Mais on se rappellera le cas de la semaine passée qu'on a vu une travailleuse sociale qui a été suspendue, elle aussi, pour avoir dénoncé de la maltraitance. Donc, c'est deux poids, deux mesures. On a des lois qui disent le contraire, mais on laisse faire le contraire. Donc, on n'applique pas ce qu'on demande de faire au niveau de la santé.
La suite des choses, c'est quoi?
Bien, écoute, on continue, nous, de notre côté, à toucher pour rencontrer le ministre. Ça, c'est certain, on ne laissera pas tomber le morceau. Les enquêtes devraient, comme on dit un peu plus tôt dans d'autres entrevues, les enquêtes devraient bientôt sortir. Donc, on va avoir des nouveaux éléments qui vont être amenés à être publiés, à devenir publics. On s'attend le rapport du coroner qui va s'en venir bientôt, le rapport qui va être public, donc les gens pourront le consulter.
Bientôt, c'est quand?
Bon, on espère d'ici la fin de l'année 2025. Je pense que c'est un travail qui est colossal pour le coroner. C'est un gros travail. Il faut comprendre qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup de pages de lecture.
Il a tout, là, les photos, le coroner?
Oui, il y a tous les documents avec
lui. Bon, ben ça risque de fesser, ça. Ça risque d'être... ça risque d'ébranler, ça. Évidemment, les rapports de coroner, parfois, ça va sur les tablettes, parfois, sont appliqués. Bien souvent, le ministre sort en disant « Oh, on avait déjà appliqué ça. » Donc, le coroner est un peu en retard. Mais ça, il y a des coronaires qui sont crunchy dans leur manière de rédiger les conclusions. Et il y a des coroners qui peuvent même aller jusqu'à blâmer carrément le ministère. J'ai hâte de voir. Et nommer du monde, j'ai hâte de lire ça pour vrai, là.
Moi, j'ai très confiance au rapport du coroner. Oui. Je pense que l'indépendance du coroner va venir démontrer ce qui s'est passé dans le dossier de montage. Il faut se le rappeler, hein, on ne veut pas que personne vive ça. Et c'est le combat qu'on mène depuis plusieurs mois. Mais maintenant,
c'est qui le coroner? Mois. T'as-tu l'identité?
Oui, c'est Martin Clavel. Je dirais que c'est le coroner, pour vous donner une idée. C'est le coroner qui a réalisé le rapport d'enquête sur le lac Mégantic et l'écrasement d'avion de Jean Lapierre de TVA. Donc, c'est un coroner
major.
C'est un excellent coroner, je vous dirais. Puis moi, j'ai eu la chance de le rencontrer. J'ai eu la chance de parler avec lui au téléphone. C'est quelqu'un qui est capable de mettre les mots aux bonnes places. C'est quelqu'un qui est capable, surtout, puis je vous dis, une qualité que j'ai remarquée sur cet homme-là, c'est qu'il écoute les gens.
Il y a de l'empathie.
Oui. Puis beaucoup plus que beaucoup d'autres entités que j'ai rencontrées au travers de ça. Puis je vous dirais que, honnêtement, j'ai apprécié cette rencontre avec le coroner.
Merci beaucoup, Olivier. On suit ça de près, la suite des choses. Bye-bye.
Merci à vous autres. Bonne matinée.
Bye, salut.